Incendie en cours à l'île des Pins. Des hélicoptères bombardiers d'eau ont été dépêchés sur place. On fait le point dès le début de ce journal. Claire Lanet, reconnue coupable de violation du secret professionnel. L'ancien procureur de la République de Nouméa a été condamné à un mois de prison avec sursis par un tribunal de Guadeloupe. L'IOM continue de scruter les indicateurs économiques. Le nombre de redressements et de liquidations judiciaires et celui du surendettement des particuliers sont en augmentation. Le climat des affaires remonte plus progressivement. En métropole, de nombreux maires attaqués en justice par des associations de gauche pour avoir installé des crèches dans leur commune. La droite fait bloc pour sauver et défendre l'esprit de Noël. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien en difficulté militaire et politique, peut toujours compter sur le soutien d'Emmanuel Macron. Il a été reçu cette nuit pour nous à l'Élysée. Et puis en sport, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Un seul match entre clubs de l'élite, ce sera Auxerre face à Monaco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra comme chaque mardi avec le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Bonnard.
Vous reviendrez dans ce magazine sur l'enquête menée par la province Sud avec l'agence sanitaire et sociale bien dans mes claquettes.
Oui, elle a été réalisée auprès des jeunes de 3e pour connaître leurs habitudes de vie finalement et notamment leur rapport aux addictions, à la pratique sportive ou encore à la santé mentale. C'est la 2e édition, ce qui permet de comparer les résultats depuis 3 ans. Ce midi, nous consacrerons ce magazine Citoyen à ces résultats et pour en parler, nous recevrons Gilles Brial, 2e vice-président de la province Sud en charge de l'enseignement, Carmela Rebouya qui est chargée de mission stratégie jeunesse, Erika Hartmann qui est épidémiologiste et biostatisticienne et Thierry Vincent, inspecteur académique, établissement et vie scolaire. Rendez-vous donc à la fin de votre journal.
Les faits divers pour ouvrir ce journal avec d'abord cette enquête en cours après une mort suspecte à Païta. Un homme d'une 50aine d'années a été retrouvé mort dans son pick-up. Il présentait plusieurs plaies au niveau de la gorge. La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie a été déployée sur place. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Nouméa. Et à l'heure actuelle, aucune hypothèse n'est encore privilégiée. Et puis cet incendie à l'île des Pins, Nicolas, il s'est déclaré hier vers 15h.
Oui, les pompiers du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont intervenus en premier avant que le maire ne demande des moyens à la DSCGR. Écoutez le capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication à la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Nous l'avons joint il y a quelques instants pour faire le point sur cet incendie.
Très vite, on a envoyé un hélicoptère bombardier d'eau en appui. Des moyens communaux qui sont des moyens de services techniques, renforcés par des moyens du CCLIA de l'île des Pins. Ce matin, nous avons renouvelé le dispositif avec un appui supplémentaire d'un 2e hélicoptère bombardier d'eau, ainsi qu'une unité de télépilote de drone pour avoir une vision globale du chantier et permettre aux pompiers sur place d'avoir mieux définir leur idée de manœuvre. C'est vrai que plus de moyens terrestres auraient été intéressants. Malheureusement, c'est l'acheminement de moyens terrestres de la Grande Terre sur l'île des Pins, c'est plutôt complexe. Donc on a plutôt orienté sur l'appui aérien et puis les moyens terrestres qui sont assurés par les pompiers CCLIA ainsi que l'île des Pins. Le feu est toujours en cours, il a détruit des 232 hectares de végétation pour l'instant.
Et à l'île des Pins, il n'y a pas de pompiers communaux, la population s'organise donc. Écoutez le maire de la commune, Christophe Vaquier.
On a été voir un de ces feux là. Il est maîtrisé en partie, mais ça a repris un petit peu hors circuit. Heureusement qu'on a un hélico là-dessus. Là. Donc là, on surveille de près. Toute l'équipe de la mairie est mobilisée sur les lieux. Il y a la TPN, les volontaires qui sont là. Bon, c'est plus trop comme avant, hein, mais on a quand même des volontaires. Là, il y a l'association des pompiers qui est toujours là. Toujours, heureusement qu'ils sont là aussi. Et on a l'assistance des pompiers de l'aérodrome. Ils sont là vraiment en cas d'un gros feu, hein. Mais ils sont quand même là pour aider quand même. On a sécurisé un peu les habitations concernées, pour ceux qui habitent au bord de la route, mais sinon, voilà, les gens sont en veille, là. Tout le monde surveille, là, en ce moment. En contrebas, c'est maîtrisé. Juste le point un petit peu noir, c'est le haut du plateau, donc c'est là, c'est un peu difficile d'accès aussi. Après, on a toujours notre petit problème de pinus, là, quand le feu prend dedans, il est quasiment impossible d'y circuler. Heureusement qu'on a des hélicos pour ça aussi.
Et pour le moment, le plan Orsec feu de forêt n'est pas déclenché par le gouvernement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la question du jour. Approuvez-vous la nouvelle formule du service national volontaire annoncée par le président de la République ? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et puis voici notre question du jour. La réponse à la question d'hier. 56% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la mission de facilitateur composée de Thierry Lataste, de Rémi Bastille et de Benoît Lombrière ne va pas arriver à sauver l'accord de Bougival. Ils sont 44% à penser à l'inverse que cette mission va permettre de sauver l'accord. Justice et Claire Lanet condamné à un mois de prison avec sursis pour violation du secret professionnel. Lors d'une audience à Basse-Terre, en Guadeloupe, où le dossier avait été dépaysé, elle a été condamnée dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Nicolas Legrand.
Oui, comme nous vous le révélions en avril 2024, la magistrate du parquet, alors procureur de la République, était poursuivie pour violation du secret professionnel. Elle a donc été reconnue coupable d'avoir communiqué des informations judiciaires confidentielles à Éric Panou, dont elle était très proche. L'ancien directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations de 2017 à 2022 était lui-même soupçonné de fraude fiscale, faux et usage de faux et blanchiment pour avoir dissimulé près de 40 millions de francs de revenus aux services fiscaux. Il a d'ailleurs depuis été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende. Ce procès a donc eu lieu en Guadeloupe puisque Claire Lanet est toujours magistrate à Nouméa et ne pouvait donc pas être jugée sur le territoire. Des enquêteurs spécialisés venus de Paris l'avaient entendue à l'époque sous le régime de la garde à vue et perquisitionné son domicile. Elle avait nié les faits à l'époque. Ce dossier a donné lieu à une saisine de l'inspection générale de la justice et une enquête administrative avait été ouverte. Sur ce volet, l'ordonnance de 1958 prévoit 9 sanctions disciplinaires possibles qui vont du blâme avec inscription au dossier à la révocation.
Et puis toujours au chapitre justice, je vous rappelle que depuis hier, un trentenaire est jugé aux assises de Nouméa pour coup mortel sur un homme. Les faits se sont passés le 10 décembre 2023 à Kouaoua lors d'une soirée anniversaire. Hier, les témoignages se sont succédés avant de laisser place ce matin aux plaidoiries de la partie civile. Le verdict est attendu dans la journée. Il est 11h37, la première pause de ce journal dans un instant, ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour vos moments festifs, pétillants, généreux et pleins de partage, la Maison Ballande vous propose une large sélection d'épiceries fines, de chocolats, de douceurs artisanales, boissons pour toutes les envies, dont une belle sélection 0%, ainsi que des coffrets gourmands prêts à offrir ou à confectionner vous-même, pour un cadeau unique et personnalisé. À retrouver toute l'année, baie de l'Orphelinat au rond-point de l'Ancre de Marine.
Les fêtes de fin d'année arrivent et vous n'avez toujours rien pour votre mari ni pour les enfants? Chez Gémeaux, vous trouverez des tas d'idées cadeaux avec vos héros préférés, Lilo et Stitch, Hello Kitty, La Reine des Neiges, Vaiana, Pat Patrouille, Spider-Man, Pokémon, One Piece, Dragon Ball Z et plein d'autres encore. Chez Gémeaux, jusqu'au 7 décembre, il y a tout ce qu'il faut pour le plaisir d'offrir.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité économique sur le territoire et l'IOM a publié 2 études concernant la conjoncture économique sur le 3e trimestre de l'année 2025. La première étude, Léana Colombo, concerne le climat des affaires qui se redresse progressivement.
Oui, l'ICA gagne 2,6 points pour atteindre 91,8 et poursuit donc sa lente remontée après le plus bas historique atteint après les émeutes. Dans un environnement économique encore très dégradé et hautement incertain, marqué par les conséquences des émeutes de mai 2024. Le moral des chefs d'entreprise semble s'améliorer lentement. Pourtant, certains indicateurs restent dans le rouge. Par exemple, les retraits et les paiements par carte bancaire ont baissé de 10% entre janvier et octobre 2025 par rapport à la même période en 2024. 191 dossiers de surendettement ont été déposés entre janvier et septembre 2025. Ce nombre augmente de 241% sur les 9 premiers mois de l'année 2025 par rapport à la même période en 2024, illustrant une plus grande fragilité des ménages depuis les émeutes de mai 2024.
Et dans le même temps, l'IOM constate que le nombre de redressements et de liquidations judiciaires en Nouvelle-Calédonie augmente de 7,9% sur un an, après 3 trimestres de recul consécutifs.
Avec 397 jugements prononcés sur un an, il retrouve le niveau atteint au début de l'année 2024. Le niveau des défaillances était resté faible en raison des dispositifs d'aide et de soutien à l'économie mis en place pour répondre à la crise de mai 2024. Parmi les dispositifs, on retrouvait le fonds de solidarité, le dispositif de chômage partiel spécifique, mais aussi la possibilité d'un report du paiement des cotisations sociales et impôts directs et un report d'échéances bancaires. L'IOM constate toutefois que la progression des défaillances concerne tous les territoires ultramarins, à l'exception de la Réunion et Mayotte. Entre septembre 2024 et septembre 2025, on enregistre 2687 redressements et liquidations judiciaires d'entreprises en Outre-mer.
Le vice-recteur a Mâconnais aujourd'hui. Il veut apaiser les tensions et sortir de la crise alors que l'UGPE organise un sit-in depuis plus d'une semaine maintenant devant le collège public. L'affaire concerne du harcèlement alors que plusieurs parents d'élèves n'ont pas accepté que leur enfant soit mis en cause. Hier, dans un communiqué, le vice-recteur a apporté son soutien plein et entier à l'équipe de direction et au personnel du collège de Connais. Et puis la chambre de métier de l'artisanat a déménagé. Après un long bras de fer juridique avec le port autonome, la CMA a pris la décision de quitter le site de Nouville. Ces nouveaux locaux ont ouvert ce matin. Ils sont situés, Charlotte Coulson, à Ducos Centre.
C'était un bâtiment bien reconnaissable à l'entrée de Nouville, la maison des artisans construite par la chambre de métier de l'artisanat sur un site mis à disposition par le port autonome. Deux conventions avaient été signées, l'une en 84, l'autre en 88, mais ces conventions ont pris fin, respectivement en 2014 et en 2019. Les loyers ont, après ces dates, été largement augmentés et la CMA ne pouvait se permettre de payer, nous disait Elisabeth Rivière, la présidente de la CMA. Elle était interviewée sur notre antenne juste après la condamnation de la CMA à verser 319 millions au port autonome. C'était au mois de septembre. La présidente de la Chambre avait indiqué faire appel de la décision du tribunal administratif. Le dossier n'est donc pas clos, mais dans ces conditions, Elisabeth Rivière nous avait dit ne pas souhaiter rester sur le site de Nouville. La Chambre de métier et de l'artisanat a donc déménagé et a ouvert ses nouveaux locaux aujourd'hui. Ils sont situés à Ducos Centre. Rien ne change dans les services proposés aux artisans, nous a dit Romina Méran, la directrice administrative financière et des moyens à la CMA.
Alors nos artisans peuvent nous retrouver dorénavant au centre de Ducos, ex-locaux de Sokouk. Ça va être un bonus pour nos artisans puisque nous sommes situés au cœur de l'activité artisanale sur Ducos, donc à proximité de nos artisans, de nos ressortissants. Il n'y a pas de rupture de mission, donc l'intégralité des missions de la CMA est assurée, que ça soit l'accompagnement des artisans, que ça soit le service comptabilité, c'est-à-dire le CGSMET ou le centre de formalité des entreprises. Donc nous assurons les mêmes missions, mais sur Ducos actuellement.
Concernant l'organisation des salons et des foires qui sont aussi un élément identitaire fort de la CMA, la Chambre souhaite les maintenir, mais elle est toujours en négociation avec différents organismes pour trouver de nouveaux lieux. Nous en saurons sans doute plus après la prochaine assemblée de la Chambre de métier et de l'artisanat qui se déroulera le 18 décembre.
Depuis plusieurs jours, la mairie de Nouméa appelle les baigneurs à la plus grande vigilance. De gros requins ont été aperçus ces derniers jours près des côtes et une présence en hausse qui s'explique par l'entrée dans la saison chaude. Nous en avons parlé à 7h30 ce matin avec Claude Maillot, spécialiste de la faune marine dangereuse tropicale. Il était notre invité du matin.
C'est une période à risque. L'été austral est une période à risque. C'est une période pendant laquelle les grands spécimens de tigres, de bulldogs sont présents et s'approchent des côtes. C'est d'ailleurs la période, l'été austral, pendant laquelle nous avons relevé jusqu'ici le plus d'attaques de requins. Je pense qu'il faut suivre les consignes de prudence qui ont été édictées, en particulier pour les nageurs, il paraît raisonnable de ne pas sortir des zones protégées de la baie des Citrons et de l'Anse-Vata. Et quant aux autres usagers du milieu marin, eh bien malheureusement, il n'y a pas grand-chose à leur proposer, si ce n'est d'être très prudente.
50% des victimes d'attaques de requins sont les chasseurs sous-marins. La Nouvelle-Calédonie déplore 81 attaques de requins, dont 18 décès, selon la documentation disponible. Et s'il existe des périodes à risque pour les usagers du lagon, les attaques peuvent survenir n'importe quand.
On a coutume de dire qu'il y a un certain nombre de facteurs favorisants de survenue des attaques, en particulier être présent en tant que baigneur seul à l'aube ou surtout au crépuscule dans une mer trouble à proximité d'une source de déchets organiques. Oui, c'est vrai, il faut absolument pas le faire, il faut garder ces consignes à l'esprit, mais il faut aussi savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, ces facteurs-là, ils sont présents que dans 25% des cas d'attaque. Les 75 autres%, il n'y a pas de facteur favorisant. C'est-à-dire, ça peut être des attaques qui surviennent en plein milieu de journée, plein soleil, une eau claire, avec du monde autour.
On se souvient d'ailleurs du touriste australien qui était décédé malheureusement lors d'une attaque à l'Anse-Vata par beau temps et avec du monde autour.
Tout à fait, ou de l'attaque mortelle de l'hylomètre. Ce sont des attaques qui obéissent à une configuration qui nous est propre et qui incite à la plus grande prudence. Alors,
Claude Maillot, spécialiste de la faune marine dangereuse tropicale, demande à ce que des études précises sur le nombre de requins et leurs habitudes soient menées. Interview à retrouver sur notre site internet. Notez que pour la première fois cette année, la mairie de Nouméa a ouvert deux postes en service civique pour assister les surveillants de baignade dans les zones sécurisées de la baie des Citrons et de Château-Royal. Le rôle est de sensibiliser les baigneurs au risque requin en effectuant des rondes sur les plages. Ces jeunes d'une vingtaine d'années ont débuté leur service civique le 6 octobre dernier. Il doit s'achever le 6 avril prochain.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h45.
Des nouveautés à l'OPT. Depuis hier, il est possible de bénéficier d'un accès à Internet sans souscrire à un abonnement téléphonique. Annoncé en août dernier, cette offre concerne seulement les usagers raccordés à la fibre, soit environ 49 000 ménages calédoniens. L'offre Internet fibre très haut débit 1 gigabit voit son prix passer de 2650 francs à 2300 francs par mois. Deux nouveautés qui permettent une économie moyenne de 1255 francs par mois et par foyer. Un portefeuille numérique pour payer des activités culturelles, c'est ce qu'offre depuis hier le Pass Culture aux jeunes de 17 et 18 ans de la province Sud. Ils peuvent dès à présent télécharger l'application sur leur smartphone, Charlotte.
Un coup de pouce pour environ 20 000 jeunes sur le territoire. Le Pass Culture est ouvert aux Calédoniens de 15 à 21 ans. Ils peuvent tous avoir accès à la plateforme numérique qui recense les offres culturelles. Pour l'instant, en province Sud, soit près de 130 organismes. La collectivité a répondu favorablement à cette proposition de l'État. Le Pass Culture est complémentaire avec l'application Click and Move, comme le souligne Gilles Brial, le second vice-président de la province Sud.
Il y a un complément déjà dans les âges et surtout dans les usages, parce que c'est le même principe des applications. Mais le Click and Move, c'est un portefeuille numérique de 15 000 francs pour les 11-17 ans, mais pour avoir accès à des activités culturelles, sportives et artistique. Donc là, on est vraiment dans les activités, la participation des jeunes. Et là, le Pass Culture proposé par l'État, c'est deux portefeuilles qui permettent finalement d'avoir accès à des cinémas, à des pièces de théâtre, à des concerts, et pouvoir également faire des achats de matériel culturel. Donc finalement, c'est vraiment deux dispositifs qui sont complémentaires et qui viennent couvrir l'ensemble de l'offre culturelle qu'on peut trouver en province Sud.
Effectivement, le Pass Culture cible particulièrement les jeunes de 17 et de 18 ans. Les premiers recevront à leur inscription à peu près 6 000 francs à dépenser chez les partenaires de la plateforme. Les jeunes de 18 ans, eux, reçoivent presque 18 000 francs à dépenser jusque leurs 21 ans. Librairies, cinéma, écoles de danse, de musique, musées ou même œuvres artistiques. Le choix de prestations est très large. Il ne fait aucun doute pour Yannick Jean, le directeur de la maison d'édition Haut Édition Pacifique Sud, que c'est un soutien important aux acteurs culturels.
C'est un levier fondamental pour permettre aux jeunes aussi d'accéder à la littérature calédonienne, de pouvoir accéder à la lecture et aux livres. Et donc aujourd'hui, c'était un moyen incontournable et nécessaire pour que les jeunes puissent rentrer un peu plus dans les librairies, diversifier un petit peu les genres de lecture. Et pour ça, le Pass Culture, c'est une clé pour nous, en tout cas éditeurs, libraires, de pouvoir développer cet axe-là auprès de la jeunesse.
Le Pass Culture est donc porté par l'État à hauteur de 120 millions de francs. Il a été déployé en Calédonie à la suite d'un amendement déposé par le député Nicolas Metzdorf en 2022. Le député qui, dans un communiqué, se dit heureux pour les 20 000 jeunes calédoniens qui vont pouvoir bénéficier de cet accès à la culture.
Du bon usage des écrans, l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation. Elle vise tous les publics pour les alerter sur les risques d'une exposition trop précoce ou trop prolongée aux écrans. Écoutez Caroline Fulchiron, elle est responsable du programme de prévention des pathologies à l'Agence sanitaire et sociale.
Donc l'usage excessif des écrans, et c'est un phénomène qu'on rencontre au niveau mondial, et en Nouvelle-Calédonie c'est également le cas. On a 3 jeunes sur 4 qui passent 2 heures ou plus par jour devant un écran pendant leur temps libre, bien au-delà du temps conseillé pour lutter contre la sédentarité. C'est le dernier baromètre santé jeune 2025. Face à ce constat, on a décidé de lancer une campagne de communication pour rappeler les conséquences sur les enfants d'un usage inadapté des écrans. Donc cette campagne rappelle aussi des repères simples et essentiels. L'objectif de la campagne, c'est effectivement de sensibiliser les parents, les adultes, au bon usage des écrans pour protéger leurs enfants.
Et plusieurs actions seront mises en place pendant cette campagne pour sensibiliser les Calédoniens au risque que représente une forte exposition aux écrans. Une campagne qui se déroulera jusqu'au 19 décembre.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Un petit mot sur notre opération du cœur, au cœur de Noël, pour permettre à tous les enfants d'avoir un cadeau pour cette belle fête de Noël. Vous le savez, c'est votre générosité qui fera la différence, puisque nous vous sollicitons pour amener des cadeaux à la radio pour des enfants, des cadeaux qui feront plaisir aux familles en difficulté, que suivent nos partenaires, le Secours catholique, la Société Saint-Vincent de Paul, la Croix-Rouge. Donc merci à vous de votre générosité. Vous êtes déjà nombreux à être venus à la la radio. Vous pouvez évidemment continuer à venir. Cette opération se déroule jusqu'au 20 décembre pour qu'aucun enfant ne soit oublié de cette fête. On compte sur vous, vous le savez. Vous pouvez passer tous les jours de 7h à 19h à RRB. Il est 11h50, une nouvelle pause. Et dans un instant, nous évoquerons l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le jeu Mac Family Voyage revient chez McDonald's du 18 novembre au 12 janvier. Collectionnez les cartes Mac Family et tentez de gagner plus de 6 millions de francs de cadeaux. Au programme, 3 voyages de rêve à Tahiti, en Thaïlande et à la Gold Coast. Mais aussi des PC, des Samsung S25, des Nintendo Switch 2, des Boombox et des milliers de produits McDonald's. Alors, prêt à tenter votre chance? Rendez-vous dans votre McDonald's préféré.
Pourquoi tu souris bêtement?
Bah, on est le 4.
Oh, tu y as pensé, mon amour.
Comment tu veux que j'oublie le Happy Day? C'est tous les 4 du mois au Complexe 4. Il y a moins 10% sur une sélection d'articles chez Célocal, la Maison du Pain et Cégel.
Happy Day. Et notre anniversaire de mariage?
Oui, bon, oui, non, mais ça va, je peux pas penser à tout non plus.
Le Happy Day, c'est tous les 4 du mois au Complexe Le 4. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Plus d'infos sur Facebook Le 4. Faites vos courses autrement.
Passez une journée au Phare Amédée avec le Maridé, élu meilleure excursion à Nouméa pendant 10 années consécutives. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
Rendez-vous samedi 6 décembre au Parc Provincial de la Rivière Bleue pour une grande journée porte ouverte. Venez redécouvrir le Grand Sud, ses activités et ses paysages magnifiques. Au programme, initiation sportive, marché, rencontres et belles surprises. L'entrée est gratuite et les navettes aussi. N'oubliez pas, c'est le 6 décembre au Parc Provincial de la Rivière Bleue. Toutes les infos sur province-sud.nc.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
Et oui, et on reparle des crèches à l'approche de Noël. De nombreux maires se retrouvent sous le coup d'une procédure judiciaire pour avoir installé des crèches dans leur commune. Dans la plupart des cas, ils sont attaqués par des associations de gauche et d'extrême gauche qui y voient une atteinte au principe de laïcité. Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, on ne partage pas du tout cette vision des choses. La droite fait bloc pour sauver l'esprit de Noël. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Des Républicains au Rassemblement National, tous s'accordent sur ce sujet. Il faut sauver Noël, il en va de l'avenir de la France, justifie l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy au micro de Sonia Mabrouk.
Cette référence commune qui fait que par notre héritage, et notamment par cet héritage chrétien, par cette tradition judéo-chrétienne, nous sommes le continent de la liberté de conscience. Défendre Noël, ça n'est pas pour les chrétiens, c'est pour toute notre société et c'est pour tout notre pays.
Crèche, sapin, jour férié, l'héritage chrétien est constamment attaqué par les élus de gauche, un comportement que dénonce violemment le maire de Béziers, Robert Ménard.
De l'autre côté, ils sont tout ce qu'on déteste, ça, encore une fois, l'affrontement, les rancœurs, la politique mise à toutes les sauces, le sectarisme à l'état pur. Ils sont vraiment pas ce qu'il y a de plus beau dans ce pays.
Cette année encore, Robert Ménard reste suspendu à la décision de justice pour maintenir ou non la crèche de Noël dans sa ville.
Un compromis politique est-il possible pour faire adopter le budget de la sécurité sociale? Le texte revient demain à l'Assemblée nationale pour un examen qui sera cette fois-ci décisif. Le Premier ministre a entamé de nouvelles consultations politiques. Sébastien Lecornu a reçu la nuit dernière le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui a fait part, à l'issue de la rencontre, d'un optimisme prudent.
Nous devons aboutir sur le PLFSS. Il y a un moment de responsabilité pour chacune et pour chacun. Nous avons fait le tour d'horizon ligne par ligne avec le gouvernement. Nous pouvons dire que nous progressons, que nous sommes dans une approche qui peut permettre d'aboutir à un compromis.
Un compromis possible, mais loin d'être acquis. C'est la raison pour laquelle Sébastien Lecornu maintient la pression.
Personne ne pourrait comprendre une surpolitisation de la question de la sécurité sociale. Je vois bien ce moment dans lequel, au fond, on se tourne vers le gouvernement en disant c'est au gouvernement de trouver la solution. Mais une fois de plus, personne ne pourra se dérober de sa propre responsabilité. Jamais, sous la Ve République, un député ou un sénateur n'a eu autant de pouvoir.
La nuit prochaine, pour nous, le Premier ministre recevra les écologistes dont l'abstention pourrait permettre l'adoption du budget de la sécurité sociale. Sachant que le Rassemblement national que Sébastien Lecornu recevra jeudi a déjà, lui, annoncé qu'il voterait contre. Le narcotrafic ne touche pas que les grandes villes de métropole. La nuit dernière, une personne a été tuée et une autre grièvement blessée, alors que leur voiture a été la cible de tirs de mitraillettes. Le drame a eu lieu dans le petit village de Mercurol-Vaune, dans la Drôme, 3800 habitants. Une sorte de narcomicide rural. Jean-Luc Bougeon pour Europe 1.
Il faut vous imaginer un petit lotissement très calme, fait de jolies maisons récentes avec vue sur les vignes. Eh bien, chose incroyable, c'est là que samedi soir, vers 23h, une voiture a été la cible de tirs en rafale juste devant la maison d'Yvan, dont la façade porte encore la trace de ses tirs.
Ici, vous avez 6 impacts, dont un qui a traversé le moellon, et puis ça s'est logé dans le mur. J'étais derrière la porte, j'ai entendu des bruits de pétards, en mode rafale, quoi. J'ai pas ouvert, j'ai entendu un peu des cris, des voix aiguës au début, et puis ça a duré, je sais pas, 15-20 secondes, quelque chose comme ça.
À bord de la voiture qui a réussi à repartir, deux jeunes femmes. La première, la conductrice, une étudiante de 19 ans, a fini par succomber à ses blessures. La seconde, elle, a été grièvement blessée. A priori, il s'agit de deux victimes collatérales de ce qui ressemble fortement à un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Car à l'arrière du véhicule, il y avait aussi deux jeunes gens, apparemment des amis de la passagère, qui étaient peut-être les véritables cibles de cette attaque, qui porte la marque d'un narco-banditisme sans limite, explique Denis Iglesias, secrétaire du syndicat Alliance Police Nationale dans la Drôme.
C'est un mode opératoire qu'on retrouve systématiquement dans le narcotrafic et j'ai même envie de vous dire, voilà, dans le grand banditisme. Que ça soit la délinquance, que ça soit le narcotrafic ou le grand banditisme, ça n'a pas de frontières. On constate que ce qui se passe dans nos villes, ça s'exporte à la campagne et que malheureusement, on est en sécurité nulle part.
Un trafic de drogue qui aujourd'hui touche 8 communes sur 10 en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Venons-en au dossier, dossier sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Emmanuel Macron continue de soutenir le président ukrainien. Il recevait Volodymyr Zelensky à l'Élysée. L'armée ukrainienne est en difficulté et Volodymyr Zelensky est aussi affaibli par la démission de son bras droit pris dans une vaste affaire de corruption. Mais pour Emmanuel Macron, il ne faut pas se tromper de combat.
Est-ce que notre rôle est de donner des leçons, nous, à l'Ukraine ? Pas vraiment. Il a pu nous arriver d'avoir d'ailleurs des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir les régler avec une justice indépendante. Mais n'oubliez jamais que ce qui est inquiétant, c'est que vous n'avez jamais ce type de décision prise du côté russe. Parce que la vraie dictature est là.
Emmanuel Macron veut croire que la France et les pays européens jouent un rôle encore dans le règlement du conflit alors que l'Ukraine et les États-Unis discutent depuis plusieurs semaines d'un plan de paix.
Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen.
Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky la nuit dernière pour nous à l'Élysée. À 11h57, on va tourner la dernière page de publicité de ce journal. On se retrouve pour évoquer l'actualité sportive et ce sera ensuite le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour un maximum de fraîcheur au jardin, craquez pour notre piscine Best Way, 305 cm de diamètre. Du 1er au 31 décembre, elle est à seulement 12 990 francs. Dépêchez-vous de passer un été ensoleillé, les pieds dans l'eau. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme. À visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénévigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
J'ai oublié l'apéro, on n'a rien à servir.
Relax, j'ai commandé la plaque pizza à la Maison du Pain.
Une plaque? Mais c'est quoi ça? 24 parts? Mais tu penses à tout.
Je sais, et en bonus, j'ai même pris les desserts. Tartelettes framboises, cheesecake et tarte tatin, madame.
La plaque pizza sur commande, la Maison du Pain, complexe Le 4, 186 rue Jacques-Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec un mot de basket pour ouvrir cette page de sport, l'équipe de France s'est inclinée ce matin face à la Finlande, défaite 76-83 dans le cadre de la deuxième journée des qualifications à la Coupe du Monde 2027. Les Bleus, qui avaient battu la Belgique 79-63 lors de la première journée, devront se reprendre. Il faudra attendre mars 2026 pour les prochains matchs. Une double confrontation face à la Hongrie, puis de nouveau face à la Belgique. Et enfin la Finlande au mois de juillet. Rappelons que les trois premiers de chaque poule se qualifient pour le tour suivant. Et puis du football, avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Les clubs de Ligue 1 font leur entrée dans la compétition, Léo Fichou.
Et au programme de ces 32e de finale, un seul duel entre équipes de Ligue 1, Auxerre-Monaco, deux duels entre clubs de Ligue 2, Grenoble-Nancy et Guingamp-Laval. On notera un beau duel entre Nice, Ligue 1, Saint-Etienne, Ligue 2. Pour le reste, le tenant du titre, le PSG, se déplacera sur la pelouse du Vendée Fontenay Foot, pensionnaire de National 3. Et puis l'actuel leader de Ligue 1, le RC Lens, jouera l'entente Feigny-Aulnois, formation de National 2.
On va terminer avec du squash sur le territoire et la suite de l'Open International BNP Paribas. Il est organisé par le 2BASC en hommage à Enzo Corigliano.
Les huitièmes de finale se joueront ce soir dès 18h à Auteuil, au programme notamment un duel entre le Britannique Freddie Jameson et le Tahitien Adrian Mori. Le Samoan Mason Smalls sera opposé à Thomas Guépy. Son père Laurent Guépy jouera contre Emeric de la Veuve. Le numéro 1 calédonien Nicolas Masné affrontera son coéquipier de l'Olympique Sébastien Gislard. Enfin, Wills Donnelly, le représentant néo-zélandais, sera lui opposé à l'expérimenté Gilles Rouvray.
Il est midi, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous retrouverez comme chaque mardi le magazine Citoyen avec Nicolas Legrand consacré cette semaine à l'enquête bien dans mes claquettes.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.